Bonjour à tous. Cette émission a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Eliott Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin, aux mallettes Valentin Bobinet. Et aujourd'hui, on se jette dans le bain du commerce mondial.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
C'est sous le haut patronage de David Ricardo que nous entamons une nouvelle série consacrée au libre-échange. Avec Adam Smith et Thomas Malthus, il est l'un des tout premiers penseurs du libéralisme économique. Les débats qui ont opposé ces philosophes au tournant des 18e et 19e siècles résonnent encore dans l'actualité. Demain, on se demandera s'il faut définitivement enterrer l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, au bord de la mort clinique. Mercredi et jeudi, nous parlerons protectionnisme vert et e-commerce. Mais d'abord, glissons-nous dans les champs de blé et les usines de l'Angleterre du 19e siècle, à l'heure où les frontières peinent encore à s'ouvrir totalement. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure libérale d'Entendez-vous l'écho. Nous allons revenir aux origines du libre-échange en compagnie de l'historien Fabrice Ben-Simon, professeur à l'université Paris-Sorbonne, et de l'économiste Daniel Diatkine, ancien directeur du Master d'Histoire de la Pensée économique de l'université Paris 1. À 14h50, on retrouvera le journal de l'Écho, présenté par Xavier Martinet. Fabrice Ben-Simon et Daniel Diatkine, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors on dit souvent de la Grande-Bretagne qu'elle est le berceau du libre-échange, mais ce que l'on sait peut-être moins, c'est qu'elle a été traversée par des débats théoriques et politiques dans cette première moitié du 19e siècle, débats qui portaient sur l'ouverture des frontières aux produits agricoles étrangers, Daniel Diatkine.
Je réagirais déjà une première fois, c'est que c'est vrai que tout le monde dit que l'Angleterre est le berceau du libre-échange. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai. C'est même tout à fait faux. Ce qui est le berceau du libre-échange, sous le nom du laisser-faire, laisser-passer, c'est en France que ça s'est passé, et un siècle avant. Et le laisser-faire, laisser-passer était le grand thème développé par Colbert, figurez-vous, c'est-à-dire celui qui représente l'exemple même de l'adversaire du libéralisme économique.
Et donc si l'on pense souvent que c'est l'Angleterre, c'est aussi parce qu'elle a eu des économistes qui ont théorisé libéralisme économique et le libre-échange, Daniel Diatkine.
En fait, si on les regarde bien, si on les lit bien, ils disent pas ça. Et ça, c'est une projection ex post assez classique que les historiens connaissent bien, que les historiens combattent d'ailleurs, mais c'était plutôt ça, c'est une lecture rétrospective. Si on veut dater la première occurrence du terme libéralisme économique, là aussi c'est en France que c'est apparu. C'est apparu en 1848, un peu avant, sous la plume de Bastiat. Bastiat est un auteur totalement inconnu aujourd'hui. Et à juste titre, il est très mauvais. Enfin, moi, je pense qu'il est très mauvais maintenant. D'autres, il y a des admirateurs de Bastiat. Et Bastiat est quelqu'un qui est intervenu dans un débat tout à fait essentiel, qui était le débat concernant le droit au travail.
Alors, c'est un très vaste sujet que le libéralisme économique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, s'intéresser en particulier à ces débats entre défenseurs du protectionnisme, défenseurs du libre-échange en Angleterre.
Mais aucun, ni Ricardo, ni Malthus, ni Smith, ne se disent libéraux, au sens où on l'entend aujourd'hui du libéralisme économique. Liberal, dans l'anglais du 18e et du début du 19e siècle, ça veut dire généreux.
Et alors ce qu'on constate en ce début du 19e siècle en Angleterre, c'est qu'il y a des débats, on va voir, qui vont opposer effectivement Malthus et Ricardo. Peut-être qu'on peut faire un point avec vous, Fabrice Ben-Simon, sur le contexte économique et social de l'Angleterre en ce début du 19e siècle, et en particulier au moment où sont adoptées les Corn Laws, qui sont des lois sur les céréales, adoptées entre 1773 et 1815.
Au début du XIXe siècle, la Grande-Bretagne, donc c'est d'une part, c'est un des vainqueurs de Napoléon, mais en fait, à l'issue des guerres napoléoniennes, le pays est plutôt épuisé. Enfin, il y a toute une crise, d'une part une crise agraire, il y a une crise également sociale. Il y a une crise sociale très grave en Grande-Bretagne après 1815, en partie liée à la démobilisation de centaines de milliers de soldats, 300 000 ou 400 000. Soldats qui sont démobilisés, liés à des mauvaises récoltes, liés à des transformations économiques qui ont commencé au XVIIIe siècle, mais qui se poursuivent après les guerres napoléoniennes et qui se traduisent par le fait que dans tout un ensemble de régions marquées par les débuts de l'industrialisation, de très nombreux artisans, des tisserands à bras, des bonnetiers, etc., se retrouvent ruinés et plongés dans une très grande détresse sociale.
C'est important de s'intéresser et de s'arrêter un instant sur cette question agricole. Il faut revenir peut-être au décret qui a imposé un blocus aux îles britanniques proclamé par Napoléon Ier en 1806. À ce moment-là, on a eu une augmentation des prix agricoles assez importante, Fabrice Ben-Simon, et c'est peut-être le retour des importations avec la fin du blocus en 1815 qui est particulièrement douloureux pour l'économie britannique et en particulier pour l'agriculture britannique.
Alors là, c'est une question qui est assez complexe. Disons que ce qui se passe en 1815 à travers ces corn laws que vous avez évoquées, c'est le fait que le Parlement et donc le pouvoir garantit un prix de vente aux propriétaires terriens et aux fermiers britanniques dans la commercialisation de leur grain. Alors les raisons pour lesquelles...
C'est quasiment une interdiction des importations, cette loi de 1815 qu'on appelle Corn Law.
Disons que c'est une interdiction en dessous d'un certain prix. Donc on peut dire que c'est une forme de protectionnisme assez stricte, plus stricte peut-être que ce qui avait été mis en place dans les Corn Laws précédentes. Et ça se traduit par, disons, voilà, une certaine sécurité pour les propriétaires fonciers qui, à l'époque, jouent un rôle très important au Parlement, dans la vie politique du pays, qui l'intérêt foncier reste très fort. Disons que ce sont des lois qui vont, dans les 30 années qui suivent 1815, devenir des enjeux de débat politique très vifs. On peut dire qu'elle cristallise en quelque sorte le protectionnisme aux yeux de leurs détracteurs. Il y a une campagne qui est d'abord limitée au cercle parlementaire ou économique, les économistes, et puis qui ensuite progressivement va se diffuser dans la presse, dans l'opinion, et puis qui devient à la fin des années 30 et au début des années 40 l'enjeu d'une grande campagne politique. Une grande campagne politique menée par les libre-échangistes autour de Cobden et Bright.
Alors on va entrer dans le détail bien sûr de ce débat, mais un dernier mot peut-être d'abord sur ce contexte économique, social et aussi démographique, parce que ce qu'il faut dire c'est que c'est une période, ce début du 19e siècle, où la population britannique double quasiment entre le début et la moitié du 19e siècle. Alors Malthus s'en inquiète dans son essai sur les principes de population, et sa théorie, c'est peut-être le film Avengers qui l'explique le mieux.
La vie était sublime sur ma planète.
Se coucher le ventre vide, mendier une bouchée de pain. Votre planète était à la veille d'une catastrophe. C'est moi qui vous l'ai évité. Tu sais ce qui s'est passé depuis? Leurs nouveaux enfants n'ont rien connu d'autre que repas abondants et cieux sans nuages. C'est un paradis.
Parce que tu as abattu la moitié de la planète.
Ce n'est pas un prix exorbitant pour votre salut.
Tu es cinglé.
C'est un simple calcul, ma petite. Cet univers est limité, ses ressources sont limitées. Si on ne régente pas la vie, elle cessera d'exister. Elle doit être régulée.
Mais qu'est-ce que tu en sais?
Je pense être le seul à le savoir. En tout cas, je suis le seul qui ait la volonté d'agir.
Voilà un extrait d'Avengers Infinity War. Dianel Diatkin, qu'est-ce que vous pensez de cette version contemporaine des inquiétudes malthusiennes?
Elle me paraît...
C'est l'occasion de réexpliquer ce qui inquiète Malthus. Qu'est-ce qu'il redoute au fond?
Il y a ça, bien sûr, il y a le principe de population que j'ai jamais compris. Donc c'est pas, mais pour moi c'est pas quelque chose de tout à fait essentiel, me semble-t-il, dans le débat sur les corn laws.
Bah il est assez inquiet de voir que la production agricole n'augmente pas aussi vite que la population.
Mais ça, tout le monde est d'accord pour dire Malthus et comme tout le monde, parce que c'est même pas besoin d'être économiste pour dire ça, que dire bien effectivement le blé la nourriture va devenir de plus en plus difficile à produire. Bon, donc si la population augmente plus vite que la production de blé, eh bien il va y avoir un problème d'ajustement. Le problème, c'est si la population augmente plus vite que la population. Et ça, c'est un élément très faible de l'argumentation de Malthus, parce qu'on voit pas tout le tout. On sait bien que c'est pas ce qui s'est passé.
Bon. Bah, la question centrale, elle va être sur le prix. Et c'est là que les corn laws interviennent.
La question centrale sur le prix, est, à mon avis, est totalement déconnecté de la question de la population, qui est importante pour Malthus, mais ce qui est important, c'est l'idée que le prix du blé ne peut pas ne pas monter.
Ça, c'est ce que dit Malthus.
Et ça, c'est pas parce que la demande augmente, parce que la population augmente. C'est parce que plus on produit du blé, alors évidemment, parce qu'il va bien falloir nourrir les gens, plus on produit de blé, plus les difficultés de production du blé augmentent. Et ça, c'est le résultat d'un choix technique. On va d'abord utiliser les techniques les plus efficaces, et si on n'a pas de nouvelles techniques, parce que, et ça, c'est une hypothèse tout à fait essentielle, hein, mais que fait, eh bien, on sera obligé de mettre ensuite en œuvre des techniques moins efficaces.
Et d'aller sur des terres moins fertiles, éventuellement.
Exact. Et donc, la fertilité des terres, c'est une façon d'exprimer de façon imagée le caractère moins efficace des techniques. Mais c'est pas essentiel. L'essentiel, c'est que, alors que pour n'importe quelle autre marchandise, on utilisera toujours la technique la plus efficace parmi toutes les techniques connues, et qu'il n'y aura jamais qu'une technique qui sera employée la meilleure pour produire des chaussures, pour produire des armes, ou pour produire ce que vous voulez. Dans le cas du blé, et le blé est effectivement central et tout à fait particulier, il est possible qu'on utilise plusieurs techniques. Deux suffisent d'ailleurs, 10 techniques qui soient simultanément employées. À ce moment-là, va apparaître la rente. Et donc ça, c'est l'explication fondamentale d'un phénomène qui était resté tout à fait mystérieux, par exemple chez Adam Smith. Adam Smith dit, il y a de la rente, mais pourquoi ? Parce que les propriétaires sont propriétaires. Et immédiatement, les lecteurs d'Adam Smith diront, mais c'est complètement stupide. On ne va pas s'approprier une terre si elle ne rapporte pas une rente. C'est la rente qui explique la propriété, ce n'est pas la propriété qui peut expliquer la rente. Et en réalité, les deux sont simultanés.
Alors c'est important ce que vous dites effectivement ici à Daniel Dyatkin, et c'est à mettre en lien avec effectivement cette décision donc d'avoir des tarifs élevés, des tarifs agricoles élevés grâce aux corn laws. Et ça, c'est lié aux propriétaires terriens, Fabrice Bensimon, et à la pression qu'ils mettent sur le Parlement.
Alors c'est un débat, hein. Disons que la raison pour laquelle les corn laws ont été mises en œuvre de façon aussi radicale et dont elles ont été perpétuées jusqu'en 1846, il y a un débat sur les motivations profondes des gouvernements pendant cette période. Disons que il y a une explication, qui est une explication en effet sociale, qui est que la propriété foncière, on peut dire. Contrôle quand même la vie politique pour l'essentiel de cette période. La Chambre des Lords, bien sûr, mais aussi la Chambre des Communes, qui est où souvent sont des propriétaires ou des gens qui sont liés aux propriétaires, qui sont élus, les ministres, les cabinets gouvernementaux à cette époque sont très marqués par les traditions aristocratiques, la cour elle-même. Donc pendant la campagne qui est menée pour l'abrogation de ces lois sur les grains, un des arguments essentiels des libre-échangistes, c'est de dire, voilà, en fait, on prétend que c'est pour préserver l'agriculture britannique, mais le fond n'est pas ça. Le fond, c'est préserver une rente particulièrement élevée.
Les propriétaires et non les travailleurs de la terre.
Non les travailleurs de la terre, non les travailleurs des villes dont l'alimentation est quand même largement... tributaires des prix du pain, non l'ensemble de la population, non ceux qui produisent la richesse dans le pays.
Et parmi ces libre-échangistes, il y a David Ricardo. Et je vous propose d'écouter un extrait des principes de l'économie politique et de l'impôt.
Dans tout le cours de cet ouvrage, j'ai cherché à prouver que le taux des profits ne peut jamais augmenter qu'en raison d'une baisse des salaires, et que cette baisse ne peut être permanente qu'autant qu'il y aura une diminution dans le prix des denrées que l'ouvrier achète avec ses gages. Si, par l'accroissement du commerce étranger ou par des perfectionnements dans les machines, on peut fournir aux travailleurs la nourriture et les autres objets de première nécessité au plus bas prix, les profits augmenteront. Si, au lieu de récolter du blé chez nous et de fabriquer nous-mêmes l'habillement et les objets nécessaires pour la consommation de l'ouvrier, nous découvrons un nouveau marché où nous puissions nous procurer ces objets à meilleur compte, les salaires devront baisser et les profits s'accroître.
Un texte lu par Aliette Ovine de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Pour Ricardo, une trop forte protection de l'agriculture est négative pour l'économie dans son ensemble, Daniel Dyatkin, c'est ça qu'il faut comprendre ?
C'est pas tellement la question de la protection de l'agriculture, parce que ça c'est vraiment un terme, et je suis tout à fait d'accord avec M. Bensimon sur le fait que la protection de l'agriculture britannique est un objectif politique important. C'est non seulement la protection des landlords, mais aussi la protection des fermiers.
Mmh. Mais disons ces Cornlows, alors, pour s'en maintenir
au Cornlows. Donc les Cornlows, elle, la citation de Ricardo est magnifique, elle va entraîner, et avec d'autres citations du même mot, parce qu'elle n'est pas isolée, elle va entraîner une haine de Ricardo absolument phénoménale. Pas près dans tout le monde, dans le monde entier. Ricardo sera considéré comme... Et l'économie sera assimilée à la science sinistre. Hein, bon. Donc, l'idée que les profits ne peuvent augmenter que si les salaires baissent en disant la valeur des biens salaires, pas la composition du panier dont les travailleurs ont besoin. Hein, est une idée qui sera lue et qui sera lue par les socialistes.
Mais hein, alors, pour qu'on comprenne bien, Daniel Dedkin, ouais. Ce qu'il dit, c'est que si le prix des céréales augmente, ouais. Il faudra augmenter le salaire des ouvriers et ça va faire perdre en compétitivité.
Bien sûr, c'est ça la grande thèse de Ricardo. Le taux de salaire et le taux de profit sont liés par une relation inverse. Et ça, c'est ça la grande thèse centrale. C'est ça, et il l'annonce très clairement. Ça, c'est le principal problème de l'économie politique, de démontrer à quelles conditions cette proposition est vraie. Et il écrit les principes de Ricard. Et ces principes sont faits pour ça.
Et ce qu'il dit aussi, c'est que si le pain est cher, les ouvriers n'auront pas les moyens d'acheter, par exemple, des produits manufacturés. Et la demande va diminuer. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que, pour Ricardo, les prix agricoles augmentent de toute façon. Et en cela, il est plutôt d'accord avec Malthus.
Mais tout à fait,
Malthus. Là, on a un point de ralliement avant de voir ce qui les oppose.
Mais ils sont très proches. Hein. Ce sont des amis vraiment... intime quasiment, hein. Donc c'est pas du tout des adversaires.
Et donc à cause des rendements décroissants, les prix agricoles vont potentiellement augmenter, mais le progrès technique pourra permettre d'atténuer éventuellement cette augmentation.
Et les importations des pays où le blé est moins coûteux et plus facile à produire.
À condition effectivement d'abroger les Cornlows. Et alors ce qu'on constate, c'est que pour Ricardo, comme pour John Stuart Mill, il faut une concurrence entre les différentes régions agricoles. Et pour lui, et ça c'est absolument central, c'est ça qui permet de garantir une certaine stabilité des prix. Donc il y a vraiment cette idée d'une internationalisation. Comment est-ce que vous le diriez, Daniel Dedkin ?
Je n'irai pas jusque-là, parce que... ça c'est un énorme problème que vous soulevez dans l'histoire de la pensée économique, qui est celui de la nation en économie. Parce qu'à l'époque de Ricardo, et encore plus à l'époque de Stuart Mill, mais pas avant, pas au XVIIIe siècle, hein, sauf chez Quesnay, par exemple, en France, mais... se constitue petit à petit l'idée qu'une économie, ça s'inscrit dans un cadre national, et que donc il y a des échanges à l'intérieur de la nation, qu'on va étudier, etc. Et il y a des échanges entre les nations, et que les échanges entre les nations n'obéissent pas aux mêmes lois que les échanges à l'intérieur de la nation. Ça, c'est une idée tout à fait, qui va fonder l'économie internationale. Le problème, quelles sont les lois qui déterminent les échanges entre les nations. Et donc, pour Ricardo, à l'intérieur de la nation, ce qui définit l'espace national du point de vue économique, c'est que la concurrence entre les capitaux aboutit à l'égalisation des taux de profit.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cela ?
Ça veut dire que un capital investi à Londres va rapporter le même taux, c'est-à-dire va rapporter le même profit rapporté à la valeur totale du capital, à Londres, à Édimbourg, à Glasgow, etc. Mais le même capital investi à Lisbonne ne rapportera pas le même taux, et que les taux de profit vont s'égaliser au Portugal, les taux de profit vont s'égaliser dans l'économie en Angleterre, disons. Et c'est ça qui définit l'économie portugaise et l'économie anglaise comme deux économies distinctes. Mmh. Alors que l'économie d'une telle région n'est pas distincte de l'économie d'autres régions, parce que les taux de profit s'égalisent entre les régions, entre les nations, ils ne s'égalisent pas.
Mais dans ce contexte, il promeut tout de même une internationalisation des échanges.
Bien sûr. C'est toujours l'application de la même idée qui ouvre la richesse des nations, à savoir que c'est quand même plus efficace de se spécialiser que de ne pas se spécialiser. Mmh. Bon, ça, donc c'est le vrai entre des individus dans la division du travail, c'est le chapitre inaugural de la richesse des nations. Et ce qui est vrai au niveau des individus est vrai au niveau, bien sûr, des nations. Donc c'est plus efficace d'acheter du vin au Portugal en échange de draps anglais plutôt que d'essayer de produire, à l'époque il n'y avait pas de réchauffement climatique, de produire du vin en Angleterre.
Mais ce qui est intéressant, c'est que David Ricardo va encore plus loin. Ce qu'il dit, c'est que la mise en place d'un marché céréalier mondial permettrait même de réduire les inégalités sociales en Angleterre, au Royaume-Uni. Dans quelle mesure? C'est-à-dire, est-ce que ça devrait permettre, finalement, dans un second temps, peut-être, d'augmenter les salaires des ouvriers?
Bah oui, c'est ce qu'il dit dans la citation qui vient d'être donnée. Il dit, si le blé est moins coûteux à produire, moins difficile à produire, et il est moins difficile à produire en Pologne ou au Canada, je ne sais plus très bien, je parle sous votre contrôle, ça va d'où?
En Lituanie, je crois.
S'il est moins coûteux à produire ailleurs, où que ce soit, eh bien, effectivement, les salaires pourront être moins coûteux à payer. C'est tout.
Et alors, ce qui est intéressant peut-être, c'est de voir la réception de ce que dit David Ricardo en Angleterre à ce moment-là, Fabrice Benson.
Oui, alors, ce qui est... Moi, je ne suis pas lecteur de Ricardo, enfin, pas plus que cela, donc je ne voudrais pas commenter trop Ricardo, mais par contre, en ce qui concerne le mouvement libre-échangiste, donc là, je parle d'un mouvement politique, puisque à la fin des années 30 se constitue cette Ligue pour l'abolition des lois sur les grains qui est dirigée par des hommes de Manchester, des industriels du textile de Manchester, puisque Manchester est la grande capitale industrielle du coton, qui est un peu le moteur de la révolution industrielle dans le textile et du coup dans le reste de l'économie. Parmi ces hommes, parmi ces bourgeois, hein, libre-échangistes, on prête à l'abrogation des lois sur les grains une dimension non seulement favorable au commerce et du coup à l'industrie, mais également une dimension morale. C'est-à-dire qu'ils expliquent dans leur souci de faire appel, il y a par exemple un des deux est un Quaker qui s'appelait John Bright et qui explique voilà, faire de l'argent par la rente sur le blé est immoral. L'abrogation des lois sur les grains en abaissant le prix du blé et donc le prix de la farine et du pain permettra aux ouvriers de vivre mieux et également développera, facilitera le commerce international. Et Cobden, pendant toute une partie de son existence, va militer pour un système de libre-échange international où, pense-t-il, les échanges des marchandises remplaceront les guerres et les conflits. Il associe de façon très étroite
C'est le doux commerce de Montesquieu.
Exactement, il y a toute cette dimension morale et pacifique qui est agitée dans cette campagne pour l'abrogation des lois sur les grains.
Et donc ce qui se joue dans ce débat politique, c'est l'opposition entre un ordre ancien qui serait incarné par les propriétaires terriens et un ordre nouveau incarné par les industriels et les marchands, Fabrice Bensimon.
Alors c'est la façon dont les libre-échangistes le posent, en effet. Alors en réalité... par exemple, les industriels du coton ont beaucoup bénéficié de protection de l'État. Ils ont bénéficié au XVIIIe siècle de protection de l'État contre les importations des Indiennes et des productions. Ils bénéficient au XIXe siècle de l'aide de l'État, par exemple, pour forcer l'accès à des marchés qui sont protégés. Je pense, par exemple, la Chine, il y a une guerre menée par la Grande-Bretagne pour l'ouverture du marché chinois au tournant des années 1840. Et disons que ce qui est vrai, c'est que dans les années 30, l'industrie textile britannique est la plus productive au monde. Elle est assurée de pouvoir conquérir de nouveaux marchés pour peu que les marchés lui soient ouverts. Et elle n'a pas à craindre, moindrement, de concurrence étrangère.
Daniel Diatkin.
Je voulais dire aussi que parmi les protections, enfin les avantages de l'industrie cotonnière britannique, mais pas seulement britannique d'ailleurs, européenne, le fait que le coton soit produit par des esclaves était quand même un élément important dans la détermination du taux de profit.
Donc ça, c'est élément important à rappeler, en effet.
Et c'est vrai qu'ils se présentent comme les porteurs d'un monde nouveau, et ils s'appuient dans cette croisade sur une ascension sociale qui est celle de la bourgeoisie industrielle et de l'ensemble des secteurs de l'économie qui bénéficient de l'industrialisation. Je pense par exemple à la banque, au commerce international qui est en développement déjà à cette époque.
Et on va voir dans un instant comment justement ces questions sont prises en charge par des personnalités politiques de premier plan. On en parle dans un instant.
Who'll buy my wheat? Who'll buy my corn? To feed my babies when they're born. Seeds and dirt, a prayer for rain that I can use. I work the land, I watch the sky. I talk to God and wonder why. But it's the only life I know. These farmers' blues. I see the seasons come and go, sending rain, fire and snow. I'm at the mercy of it all, this life I choose. Sometimes I hang my head and cry when that evening train goes by. Wish it could take me far away from these farmers' blues.
Farmer's Blues de Marty Stewart sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. L'historien Fabrice Ben-Simon et l'économiste Daniel Diatkin sont toujours avec nous pour parler de ce duel au sommet entre Malthus et Ricardo. Alors faut-il ouvrir le marché britannique des céréales à la concurrence internationale en cette première moitié du 19e siècle? À cette question, Daniel Diatkin, Malthus répond non. Pourquoi? Parce que selon lui, cela produirait quoi? Trop de déséquilibre sur les prix?
C'est parce que la baisse des revenus des propriétaires fonciers aurait un effet très dépressif, non pas sur les prix, mais sur l'activité économique, tout simplement.
Donc, de quelle façon ?
Le grand conflit entre Malthus et Ricardo, qui va vraiment les opposer sérieusement, et les Cornlaws, c'est un élément de ce grand conflit, c'est la question, est-ce qu'il est possible qu'il existe une crise générale de surproduction ? Pour Ricardo, c'est tout simplement inconcevable. Et il s'appuie sur, d'ailleurs, les travaux de Jean-Baptiste C, qu'il connaît bien, pour expliquer ce qu'on appelle la loi de C, à savoir que tous les revenus se décomposent soit sont consommés, soit sont épargnés. S'ils sont épargnés, ils sont nécessairement investis. Donc par conséquent, il ne peut pas y avoir de possibilités, d'autres déséquilibres dans l'économie, que des déséquilibres locaux, d'une branche peut-être en excédent, une autre. Mais dans ce cas-là, ça implique qu'il y a une autre branche qui n'est pas en excédent.
Okay. Alors que ce que dit Malthus, c'est qu'il peut y avoir des épargnes qui ne sont pas réinvesties.
Ce que dit Malthus, pour être bien clair, c'est que toutes les branches peuvent être en excédent. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument inconcevable pour Ricardo. Et c'est quelque chose que Malthus ne défend pas avec énormément de clarté, mais qu'on peut présenter de la façon suivante. Pour Malthus, il est important que les revenus créés aujourd'hui ne le sont créés que dans la mesure où ceux qui les créent, c'est-à-dire les capitalistes, anticipent une dépense future. Donc la dépense, Malthus, comme tous les classiques, disent il y a trois grands types de revenus principaux, la rente, le salaire et le profit. Les rentiers, c'est-à-dire les propriétaires fonciers, on peut dire tout ce qu'on veut sur eux, mais c'est pas des épargnants. C'est des gens qui achètent des biens de luxe, et donc par conséquent, c'est très bien d'acheter des biens de luxe, ça fait travailler les ouvriers de Vuitton et Moët & Cie. Bon. Deuxièmement, il y a les salariés qui, évidemment, dépensent tout ce qu'ils gagnent, puisque l'épargne salariale est très faible, négligeable. En revanche, les capitalistes ne dépenseront et donc n'investiront que dans la mesure où ils anticipent une dépense suffisante. Et si ce n'est pas le cas, ils n'investiront pas. Donc, ce que dit...
D'où la crise de la surproduction.
Donc, à ce moment-là, il peut y avoir une crise générale de surproduction, puisque les capitalistes sont présents dans toutes les branches. Et ça, donc il faut encourager la dépense du revenu. Et les anticipations sur la dépense du revenu, les Cornlaws, en diminuant la dépense des propriétaires fonciers, vont entraîner une baisse de la dépense, rien, sans qu'elle soit compensée par quoi que ce soit.
Et donc c'est pour ça qu'ils se positionnent contre l'abrogation de ces Cornlaws. Mais alors est-ce qu'il y aurait des cas exceptionnels? Par exemple, en cas de pénurie, est-ce que dans ce cas-là, il faudrait autoriser les importations selon Malthus?
Bien sûr, mais bien entendu. Et d'ailleurs, Malthus, dans un premier temps, est favorable à l'abrogation des Cornlaws. Et c'est dans un deuxième temps, lorsqu'il réfléchit justement sur la situation de la Grande-Bretagne, où là, il y a une crise économique majeure, je parle sous votre contrôle, monsieur, mais une crise économique majeure qui est liée, comme vous l'avez dit, à la reconversion de l'économie de guerre à l'économie de paix, qui est toujours très difficile. Dans ce contexte de crise économique majeure, Malthus dit, mais ça va pas de soi, encore une fois, que la loi de C n'est pas toujours valide. C'est dans ce contexte-là que ce débat est important.
Ce qu'on comprend, c'est que chez Malthus, la question de l'indépendance alimentaire est cruciale. Ça, c'est un imaginaire de la famine et de la dépendance à éventuellement d'autres pays qui est très présent en cette première moitié du 19e siècle, Fabrice Ben-Simon.
Bah, disons qu'il y a, la Grande-Bretagne, c'est un, on peut dire, au milieu du 19e siècle, c'est le pays le plus riche au monde. C'est un pays qui a une économie très dynamique et dont l'industrie procure des richesses importantes. Et en même temps, la Grande-Bretagne, en fait, c'est une partie du Royaume-Uni, qui comprend aussi l'Irlande. L'Irlande et la Grande-Bretagne sont unies, y compris sont dans une même zone douanière de libre-échange depuis 1800. Et en Irlande, se produit à partir de 1845-1846, une famine terrible qui tue au moins 1 million d'habitants, 1 million d'Irlandais sur une population d'un peu plus du million. Et donc 12% de la population, ce qui est terrible, ce qui est une famine exceptionnelle pour l'Europe du 19e siècle. Et c'est au sein même du Royaume-Uni, c'est sous les yeux, on pourrait dire, sous des lecteurs, des ministres, des députés, des observateurs de cette époque.
On va en reparler, on va voir que ça a effectivement suscité de grands débats politiques à ce moment-là, mais peut-être d'abord, ce qu'on pourrait croire, ce que l'on entend parfois, c'est que, vous vouliez dire, pardon, Fabrice Ben-Simon.
Oui, alors, en Grande-Bretagne même, ce qui est, il n'y a plus de famine, mais par contre, il y a des disettes, et en particulier après les guerres napoléoniennes, il y a la crainte de la part des autorités de se retrouver avec une situation semblable à celle de la France d'avant 89, d'extrême pénurie qui provoque des troubles sociaux, des révoltes qui se traduisent par des soulèvements. Et c'est une crainte qui perdure. Par exemple, en 1830, donc on est déjà pendant la révolution industrielle, il y a dans toute une partie des campagnes britanniques des émeutes agraires très très violentes liées à la détresse rurale qui n'est pas du tout résorbée à cette époque. D'où la préoccupation aussi de l'approvisionnement en subsistance de façon régulière et suffisante.
La révolte qui gronde dans les campagnes mais aussi dans les usines.
Tout est prêt. Les mesures patiemment combinées depuis si longtemps vont aboutir à la fois. Ne croyez pas aller au combat en victime dévouée. La victoire est sûre. Plus sûre que si je m'appelais Ferdinand ou Nicolas et que juste derrière moi les soldats de l'Autriche ou de la Russie. À l'heure où je vous parle, l'Irlande armée attend le signal de la guerre. Le pays de Galles, prêt à se soulever, dissimule la vaste conspiration de ses paysans sous des mascarades grotesques et fourbit ses armes, tandis qu'on le croit occupé à couvrir de caricatures les murailles neuves des barrières de l'octroi. Birmingham et ses comtés manufacturiers s'agitent pour la charte du peuple. Il y a là 50 000 soldats qui n'attendent qu'un cri parti de Londres pour serrer leur rang et marcher. Enfin, autour de Londres, d'innombrables meetings ont proclamé aussi la charte du peuple, et ce nom nouveau de chartiste a fait trembler les ministres du roi dans le conseil.
Voilà, on entendait le marquis de Rio Santo, personnage insaisissable de Paul Féval dans son roman « Les mystères de Londres », un roman qui est paru en 1844. Et dans cette histoire, le marquis veut s'appuyer sur les chartistes pour lancer une insurrection. Alors d'abord, peut-être que vous pouvez nous expliquer, Fabrice Ben-Simon, en quoi consiste ce mouvement politique ouvrier qu'est le mouvement chartiste.
Alors oui, deux mots sur un peu le contexte social et économique de cette époque. Donc, à partir de 1832, la bourgeoisie partage le pouvoir, on pourrait dire, avec les propriétaires terriens dont on parlait à l'instant. Il y a une réforme parlementaire très importante en 1832 qui leur donne accès à une représentation plus large au Parlement. Et de nombreuses personnes qui s'étaient mobilisées pour cette réforme électorale sont très en colère parce que les nouveaux parlements qui se succèdent dans les années qui suivent adoptent des mesures très dures vis-à-vis des classes populaires. Parmi une réforme importante de l'assistance aux pauvres qui durcit beaucoup la condition des indigents. Et le chartisme, il émerge dans ce contexte, il émerge en 1838, autour d'abord de revendications politiques, puisque c'est le suffrage universel masculin qui est la principale exigence des chartistes, mais avec une logique qui dépasse ce programme, puisque l'idée c'est que bon, le Parlement gouverne pour les riches, disons pour aller vite, ou pour la plutocratie, enfin il y a différents termes qui sont utilisés. Pour que le Parlement gouverne pour le peuple, il faut que ses représentants soient élus par le peuple, et d'où la nécessité d'accéder au droit de vote, qui à l'époque est censitaire et réservé à la bourgeoisie. Quoi.
Et les chartistes dénoncent aussi la cherté du pain, qui provoque en même temps des révoltes agraires à grande échelle, je pense en particulier aux Swing Riots en 1830. Est-ce que vous nous en dire un mot ?
Les Swing Riots, c'est celle que j'évoquais, donc voilà, on est au tout début des années 30, et il s'agit d'une vague qui n'est pas structurée au sens où il n'y a pas ça ne prend pas un caractère. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de parti, il n'y a pas d'organisation qui mobilise. Mais il y a une série d'incidents plus ou moins graves, de révoltes, d'émeutes dans les campagnes. Et puis, dans les années qui suivent, il y a de très nombreuses révoltes locales qui sont souvent des révoltes ouvrières ou des révoltes d'artisans paupérisés, comme ceux qu'on évoquait, des révoltes de... parfois, il y a des grèves très importantes. On est dans une période où les grèves sont nombreuses, en particulier contre la baisse des salaires. Il y a peu de grèves pour la hausse des salaires, il y a énormément de grèves contre la baisse des salaires ouvriers, quoi. Et les chartistes, c'est vrai, s'appuient sur cette colère, sur ces vagues de mobilisation dans leur combat politique pour la charte du peuple.
Et alors il y a une résistance, on en commençait à en parler tout à l'heure, qui commence à s'organiser contre ces lois céréalières après la mort de Ricardo dans les années 1820 et la mort de Malthus dans les années 1830. Une résistance qui s'organise parmi les industriels, vous nous l'avez dit Fabrice Ben-Simon, mais peut-être de façon différente selon les secteurs industriels dont on parle.
Oui, parce que alors, on parlait du coton, donc les industries, bon, l'industrie cotonnière britannique est très performante, elle est très compétitive, les machines britanniques sont extrêmement productives, donc dans ce secteur-là, on est très favorable au libre-échange. Il y a d'autres secteurs qui sont plus ou moins protégés, qui eux aussi demandent du temps avant de se moderniser, qui sont moins favorables. Je pense par exemple, y compris dans certains secteurs de la mécanique, parmi les opposants à l'abrogation des lois sur les grains, il y a des grands industriels, y compris les basés à Londres, au sud du Pays de Galles. Donc,
et alors, quels secteurs ne se sentent pas protégés, par exemple ?
On peut pas dire qu'il y ait un secteur en particulier en dehors de bien sûr de l'agriculture, enfin de la propriété terrienne. Il s'agit plutôt d'industriels qui ont des positions contradictoires. Mais disons que ce que cherchent à faire les libre-échangistes autour de la Ligue pour l'abrogation des lois sur les grains, c'est de mobiliser l'opinion, y compris ils s'adressent aux chartistes, donc ils s'adressent, on pourrait dire, aux ouvriers, en leur disant « Vous devez nous rejoindre, puisque la Ligue met en place des méthodes de campagne assez modernes, qu'elle a en partie empruntées à ceux qui ont lutté pour l'abolition de l'esclavage dans les colonies britanniques, avec des pétitions, des meetings, des manifestations, on construit des locaux, on rémunère des agents, on essaye de faire du lobbying parlementaire, on soutient des candidats aux élections ou on en combat d'autres. » Tout ça, donc elle cherche à mobiliser au-delà de la bourgeoisie. Elle cherche à mobiliser parmi le peuple, et de ce point de vue-là, les chartistes sont un des publics auxquels elle s'adresse.
C'est une mobilisation politique et aussi intellectuelle, parce que c'est dans ce contexte que naît par exemple le journal The Economist.
Tout à fait. Ouais.
Qui cherche à défendre donc le libre-échange.
Or, le journal The Economist, c'est un des journaux qui en effet défend le libre-échange. Il y en a d'autres à cette époque. C'est celui qui est aujourd'hui est connu, puisqu'il a...
Il est resté jusqu'à nous.
Il a survécu, mais y compris... Bon, parce qu'on parle des journaux, mais à l'époque, la diffusion des idées passe aussi beaucoup par des petites brochures, des tracts, des réunions. On est dans une époque où il y a aussi encore toute une culture orale, donc il y a des très nombreuses formes de mobilisation populaire qu'essaye de mettre en place la Ligue. Et ce qu'on peut dire quand même, ce que les historiens de cette organisation notent, c'est que dans l'ensemble, ça échoue. C'est-à-dire que bon, il y a un mouvement d'opinion, Mais il y a quand même un mouvement de l'opinion publique bourgeoise. Alors la bourgeoisie, c'est pas seulement les industriels, ça comprend... Il y a toute une couche sociale qui a le droit de vote à cette époque. Il y a environ 800 000 électeurs dans la Grande-Bretagne des années 1840, quoi, qui se mobilisent dans le cadre de cette campagne. Mais par exemple, les chartistes et dans les syndicats ouvriers, les associations ouvrières, dans leur grande majorité, refusent de s'y joindre.
La convergence des luttes, dirait-on, n'a pas fonctionné.
Pardon ?
La convergence des luttes, dirait-on aujourd'hui, n'a pas fonctionné.
Mais non, parce qu'ils ne sont pas dupes du tout du fait que les industriels qui cherchent à abaisser leurs salaires ne réclament pas l'abrogation des lois sur les grains par philanthropie.
Et alors c'est intéressant sur ce point, Daniel Yadkin. Souvent on dit que Malthus est d'accord avec Ricardo sur le plan économique, mais qu'il est défavorable au libre-échange sur le plan politique, avant tout parce qu'il redoute la disparition des propriétaires fonciers. Est-ce que ce serait une erreur de réduire Malthus à cette dimension politique ?
Moi je crois que oui. Je pense que il trouve les propriétaires fonciers... il n'a pas d'hostilité à l'égard des propriétaires fonciers. Et personne n'a d'hostilité. Ricardo, qui était lui-même propriétaire foncier, n'avait pas d'hostilité de principe à l'égard des propriétaires fonciers. Bon, ça n'a... Ce qui, par contre, est discuté, c'est que les Cornelos vont certainement... l'abrogation des Cornelos va certainement mettre en péril la situation des fermiers, ce qui n'est pas du tout la même chose que les propriétaires fonciers. Les propriétaires fonciers ne seront mis en péril que de façon indirecte, parce que eux, ils sont liés, leurs fermiers sont liés à eux par des baux, et les baux ne sont pas réévalués en fonction des prix des grains. Par contre, les prix des grains impactent directement les fermiers. D'abord. Bon. Alors, en ce qui concerne donc cette position de Malthus à l'égard des propriétaires fonciers, je pense que ça me paraît un peu polémique, si vous voulez, mais j'en sais rien après tout, et ça, je ne pense pas que ce soit très important. Quels sont ce qui est plus important, c'est la position de Malthus à l'égard de la dépense, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et eux, les propriétaires fonciers, sont des gens qui sont très dépensiers.
Mais alors c'est dans ce contexte, vous commenciez à en parler tout à l'heure, Fabrice Ben-Simon, qu'intervient en 1845 la grande famine en Irlande, dont on va voir les répercussions.
Les cultivateurs du comté de Cork n'ont récolté aucune pomme de terre cette année. Mais si jamais vous aidez les Irlandais...
Tous les ouvriers de Manchester nous demanderont pourquoi eux doivent dépenser la moitié de leur salaire pour se nourrir, tandis que nous faisons la charité à d'autres. Si j'envoie de l'aide aux Irlandais, Drummond, je serai alors contraint d'abroger les lois qui protègent de façon artificielle le prix du blé britannique. Et si je fais cela...
Le parti entier va se rebeller.
Tous les Tories possédant des terres et dont les revenus sont garantis par ces lois me verront comme le pire des traîtres. Et ils auront parfaitement raison.
Quand le Premier ministre reconnaîtra-t-il que le temps est venu de nommer les choses ? Ce que le mildiou de la pomme de terre a provoqué, c'est une famine ! Il faut que nous agissions en conséquence.
Si le bruit venait à courir que le gouvernement du Royaume-Uni a entrepris de faire envoyer de la nourriture aux Irlandais, nous perdrions alors en grande partie le soutien que nous témoignons la bourgeoisie irlandaise, mais aussi le clergé irlandais et les propriétaires terriens irlandais. Est-ce vraiment ce que vous cherchez à obtenir ?
Voilà le Premier ministre Robert Peel, leader du Parti conservateur dans la série Victoria. Quel rôle va jouer cette grande famine en Irlande dans l'abrogation des Corn Laws qui interviendra finalement l'année suivante, Fabrice Ben-Simon ?
Je crois qu'elle ne joue pas un rôle très important en fait. Mais elle a été utilisée par Peel dans ses mémoires et puis comme une justification morale à l'abrogation. Alors elle joue pas un rôle très important pour plusieurs raisons. D'abord parce que les lois sur les grains sont abrogées au tout début de 1846, alors que la famine elle-même commence à peine en fait. La famine, elle commence. La première récolte échoue en 1845, mais la famine, elle touche très durement la population en 46, 47, et puis elle dure jusqu'au début des années 50. L'Irlande, en effet, c'est un pays où l'alimentation de subsistance, c'est la pomme de terre. L'Irlande a une production céréalière qui est en partie exportée vers la Grande-Bretagne Et disons que cette production céréalière, elle procure des liquidités, elle permet en particulier de payer de très nombreux métayers, de payer leur loyer de la terre.
Mais donc l'abrogation des corn laws en 1846 n'aura aucun impact sur la capacité des gens en Irlande, très simplement, à pouvoir se procurer des grains et pouvoir se nourrir.
Ben non, parce que en Irlande, le problème principal pendant la famine, c'est que les gens ne peuvent pas acheter. Ne peuvent rien acheter. C'est moins un problème d'approvisionnement, enfin de disponibilité des grains ils n'ont plus aucun revenu. Ils n'ont plus aucun revenu. Donc tout c'est, puisqu'il y a une série d'échecs, la récolte de pommes de terre, en raison du mildiou qui est évoqué dans l'extrait que vous avez diffusé, il y a plusieurs années successives, hein, donc jusqu'en 49, les récoltes sont en partie ou en totalité détruites. Donc toute cette paysannerie, dont la pomme de terre est la principale production, n'a plus de ressources. Elle n'a plus de ressources, donc qu'est-ce qui se passe? D'une part, elle ne peut plus se nourrir, et puis très vite, commencent des expulsions locatives. Et de très nombreux, des centaines de milliers de familles de métayers sont expulsés de leurs parcelles par leurs propriétaires. Et se retrouvent soit à mourir sur le bas-côté des routes, soit émigrés massivement, comme plus d'un million d'entre eux sont parvenus à le faire. Donc, en fait, non, il n'y a pas d'effet positif de l'abrogation des lois sur les grains en Irlande pour cette raison-là, qui est d'abord le fait qu'on est dans l'état le plus riche au monde, mais toute une partie de la population ne peut plus s'acheter à manger. Et comme l'extrait que vous diffusiez l'illustre, dans les cercles gouvernementaux, on ne veut surtout pas, par des mesures de secours, semblait encourager ce qui est vu comme un problème irlandais important.
Et ce qu'il faut souligner, peut-être, c'est... Daniel Petkin, vous voulez rajouter quelque chose ?
Non.
Ce qu'il faut souligner, c'est le fait que c'est un conservateur, donc Robert Peel, qui va finalement supprimer ces lois en 1846. Dans l'extrait Victoria, on entendait le mot trahison qu'il prononce lui-même. Comment on explique que finalement il prend une mesure, Robert Peel, qui est contraire à ce que veulent la majorité des Tories à ce moment-là ?
Alors, c'est l'abrogation des lois sur les grains. C'est la mesure la plus importante d'une série de mesures libre-échangistes. Mais il y en a très nombreuses. Et disons qu'il y a une période qui va des années 1830 aux années 1860, de libéralisme progressif, dans laquelle, cette mesure de 1846 fait figure de symbole en raison du combat qui a été mené pour son aboutissement. Alors Peel, ce qui est compliqué, c'est qu'en effet c'est le parti conservateur, donc le parti aristocratique, le parti traditionnellement des propriétaires fonciers, le parti de la monarchie, mais on est dans une Grande-Bretagne qui change, enfin le pays est en train de changer, les classes sociales se transforment. La Grande-Bretagne en 1850, c'est un pays urbain. Il y a déjà la moitié de la population qui vit dans les villes. Donc y compris au sein même des deux grandes coteries parlementaires que sont les Whigs et les Tories, l'intérêt industriel, l'intérêt manufacturier, l'intérêt cotonnier, l'intérêt bancaire prennent de plus en plus de place. Et le parti Tory se divise autour de cette question. Mais ce qu'on peut noter quand même, c'est que ensuite, y compris quand la fraction protectionniste des Tories reviendra au pouvoir, elle ne revient pas sur l'abrogation des lois sur les grains et sur les mesures d'abolition, par exemple, des actes de navigation qui ont été prises.
Et quels effets cette abrogation va avoir sur le prix du pain? Est-ce que, véritablement, ça va permettre une diminution du prix du pain et une hausse des salaires? C'est ce qui avait été promis, en tout cas, à Fabrice Bentimon.
Alors ça, je ne suis pas capable de répondre là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que jusqu'en 1850... ce qui est assez documenté, c'est le fait qu'il y a une baisse importante des niveaux de vie. On le sait par plusieurs... c'est difficile à apprécier exactement, mais enfin, on le sait quand même par plusieurs études. Par exemple, on sait que la taille des soldats dans l'armée s'abaisse de 5 cm en une trentaine d'années. On sait que l'espérance de vie dans les grandes villes diminue. On sait qu'il y a une certaine paupérisation, et puis après 1850, il y a une élévation progressive des salaires ouvriers, à la faveur d'un dynamisme très important de l'économie britannique, hein, qui atteint un peu un apogée autour de 1870, à la faveur aussi de très nombreuses grèves ouvrières, de mobilisation, de formation de syndicats, d'associations ouvrières, qui luttent de plus en plus avec certains succès pour des augmentations de salaire.
Pour Karl Marx, en tout cas, cette abrogation des Corn Laws, c'est une victoire pour le libre-échange.
L'abolition des lois céréales en Angleterre est le plus grand triomphe que le libre-échange ait remporté au XIXe siècle. Dans tous les pays où les fabricants parlent de libre-échange, ils ont principalement en vue le libre-échange des grains et des matières premières en général. Frapper de droits protecteurs les grains étrangers, c'est infâme. C'est spéculer sur la famine des peuples. Du pain à bon marché, des salaires relevés, voilà le seul but pour lequel les libre-échangistes, en Angleterre, ont dépensé des millions. Et déjà leur enthousiasme s'est étendu à leurs frères du continent. En général, si l'on veut le libre-échange, c'est pour soulager la condition de la classe laborieuse. Mais, chose étonnante, le peuple auquel on veut à toute force procurer du pain à bon marché est très ingrat. Les ouvriers anglais ont très bien compris la signification de la lutte entre les propriétaires fonciers et les capitalistes industriels. Ils savent très bien qu'on voulait rabaisser le prix du pain pour rabaisser le salaire, et que le profit industriel augmenterait de ce que la rente aurait diminué. Ricardo, l'apôtre des free traders anglais, l'économiste le plus distingué de notre siècle, est sur ce point parfaitement d'accord avec les ouvriers.
Voilà un discours de Marx prononcé le 7 janvier 1848. Donc selon Marx, le peuple n'est pas dupe. Cette abrogation vise d'abord à servir les intérêts des industriels et non ceux des ouvriers, Fabrice Bensimon.
Bah oui, il reprend en quelque sorte, en développant avec beaucoup d'ironie et de...
De verve,
et puis aussi une réflexion qui est très stimulante. Il reprend le propos des chartistes, c'est-à-dire vous dites que vous voulez faire notre bien en abaissant le prix du blé, vous voulez d'abord faire le vôtre. À cette époque, par exemple, il y a des débats importants autour de la limitation du temps de travail dans les fabriques. Temps de travail qui est très élevé, qui s'est beaucoup élevé. Ça fait partie aussi de cette dégradation que j'évoquais. On travaille en 11 heures, à peu près 11 heures, 12 heures par jour dans les fabriques, quand ce n'est plus. Et les libre-échangistes de la Ligue s'opposent à toute réglementation. Donc les très nombreux ouvriers ne sont pas dupes. Et c'est, en leur nom, en quelque sorte, que Marx exprime cette critique acerbe du parti libre-échangiste.
Et alors, dans quelle mesure ce débat qui a opposé Ricardo et Malthus résonne encore dans notre actualité, selon vous, Daniel Diatkine? Est-ce que ça a fait du Royaume-Uni un bastion de défense du libre-échange, ou est-ce que ce serait un raccourci?
Oui, ça, c'est un raccourci. Parce que je pense qu'il est très difficile avec l'idée avec le libéralisme économique, et ça, je suppose que vous allez en débattre toute la semaine, mais que c'est qu'il n'y a pas un libéralisme. D'abord, il n'y a pas un libéralisme, il y a plusieurs libéralismes. Il y a le libéralisme politique et le libéralisme économique. Et il ne faut surtout pas mélanger les deux. C'est pour ça qu'en généralement, en France, on est très surpris d'apprendre que les liberals américains sont des gens qui sont souvent considérés comme des rouges. Bon. Ou presque. Bon. Donc, deuxièmement, à l'intérieur même du libéralisme économique, il y a énormément de variétés. Et donc, j'ai évoqué le Bastiat, qui était le fondateur, qui est le premier à se dire « je suis un libéral économique » et qui défend cette idée en disant « je ne veux pas que l'État intervienne dans les relations contractuelles entre employeurs et salariés ». Pas plus que je ne veux que l'État intervienne, etc.
Une immense variété qui nous intéresse et à laquelle on va consacrer une autre série à la rentrée cette fois, et plus particulièrement au néolibéralisme. Un grand merci à tous les deux. Mais pour l'heure, c'est le moment de retrouver le journal de l'écho présenté par Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Passage aujourd'hui de la loi anti-gaspillage et sur l'économie circulaire à l'Assemblée. Dans l'océan des mesures, c'est d'abord celles qui concernent le plastique qui vont faire débat.
Oui, avec une mesure importante, non pas parce que le plastique est le déchet le plus important quantitativement, c'est 67 kilos, disait le WWF en 2007, sur les 5 tonnes de déchets annuels que produit chaque Français, mais importante parce que la généralisation de consignes de recyclage plastique voulu par le gouvernement a déjà fait débat. En fait, c'était des consignes mixtes, généralisées, donc mixtes parce qu'elles permettaient de réemployer le verre et de recycler le plastique. Or, cette mesure a déjà été rejetée en septembre par les sénateurs qui voient en elle tout simplement le cheval de Troie de grands groupes agroalimentaires comme Coca-Cola ou Danone. C'est le moyen qu'ils ont trouvé de s'assurer un gisement de matières premières à bas coût, écrivait-il en septembre. Alors le gouvernement lui vise toujours 100% de plastique recyclé d'ici 2025, mais il a, disons, ramené cette mesure à des expérimentations locales. Alors y aurait-il effectivement plus d'effets négatifs que positifs? Écoutez ce qu'en dit Gilles Laforgue, il est professeur d'économie à la Toulouse Business School et chercheur à l'école d'économie de Toulouse.
Les consignes versus bac jaune, hein, ou sac jaune, c'est un petit peu ça le débat. Les deux ont quand même deux impacts vraiment différenciés sur le consommateur. Parce que je vais parler de deux effets qui s'opposent dans les comportements des gens, que sont les principes du signal prix. Hein. Si on renchérit le prix d'un produit, on devrait en diminuer la consommation. Donc ça, c'est un des aspects positifs de la consigne. Même si la consigne est récupérable, à l'achat, le prix est quand même plus élevé. Donc ce qui devrait quand même freiner la consommation. À côté de ça, vous avez un autre effet qui va dans le sens inverse, qui est ce qu'on appelle l'effet rebond, qui apparaît lorsque les gens peuvent ou pensent qu'ils peuvent consommer, pas en toute impunité, mais avec une conscience écologique qui est un petit peu plus respectée, lorsque les gens peuvent consommer un produit, sachant que celui-ci derrière est recyclé. Après, vous avez des effets qui sont beaucoup plus structurels, qui sont liés directement à l'organisation de la filière de recyclage. Et donc, on voit clairement que des filières déjà en place, comme Fédérec, qui ont déjà totalement organisé leur filière autour de la récupération des déchets par les collectivités, ne voient pas d'un très bon œil le changement du système. Ça remettrait complètement en question leur fonctionnement. Il faudrait qu'elles se réorganisent complètement. Et de notre côté, les collectivités qui ont dépensé quand même des sommes assez conséquentes pour organiser localement une filière de récupération, de collecte et de tri, verraient une manne financière leur échapper, puisqu'elles revendent ces déchets auprès des grands groupes.
Deuxième reproche fait au projet de loi, qui contient au moins 8 types de mesures différentes, c'est que ce serait un texte fourre-tout.
Ah oui, ça c'est une députée à LREM qui l'expliquait au Monde, déplorant qu'on n'arrive pas à porter du sens. Il faut dire que ces mesures sont assez disparates, mais c'est une diversité nécessaire, soutient Gilles Laforgue. Elles ajoutent 8 filières pollueurs-payeurs, par exemple, pour le tabac, le BTP ou les jouets, des mesures qui touchent l'alimentation, le médicament. Globalement, en fait, on pourrait les diviser en deux, des mesures d'économie circulaire et d'autres plus tournées vers ce qu'on appellerait la sobriété. L'examen du texte a lieu jusqu'au 20 décembre.
Et on passe aux brèves. En attente de préciser sa réforme des retraites, le gouvernement tente de donner des gages aux enseignants.
Oui, pas de baisse des pensions, c'est ce qu'a promis Jean-Michel Blanquer vendredi dernier, alors que le taux des professeurs grévistes avait avoisiné les 50%. Le ministre de l'Éducation a annoncé, je le cite, des mesures inédites dans l'histoire de l'éducation nationale, revalorisation salariale et primes chiffrées par Gérald Darmanin, cette fois à hauteur de 400-500 millions d'euros sur 10 ans. Le gouvernement rassure donc. Ces 10 milliards correspondent aux annonces du président Macron à Rodez, mais deux syndicats ont déjà rejeté la mesure. L'un d'eux, le SNES-FSU, l'a chiffré à une augmentation mensuelle de 37 euros bruts par enseignant. C'est insuffisant, dit-il.
Merci beaucoup Xavier Martinet. Votre journal de l'écho est à réécouter sur notre site franceculture.fr et en podcast.
Je descends seule à Grasselmaine. Je lui confie tout bas que loin des miens, non plus rien ne peut m'atteindre. Je me souviens de vos fils ordinaires, déguisés pour me plaire, mais en vain. Je ne veux plus mentir. Fier pour rien, je n'ai plus peur de dire que sans vous tout va bien, tout va bien.
Grace Holman de Morgane Imbeau. Merci beaucoup Fabrice Ben-Simon et Daniel Diatkin de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Demain, on enterre l'OMC ou ce qu'il en reste, une disparition programmée qui signe peut-être la fin du multilatéralisme économique. On en parlera avec Jean-Marc Sirohen et Mehdi Abbas. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site donc franceculture.fr et sur toutes les applications de podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous les coups.